On va accueillir maintenant un duo, Eric Sanchez, directeur de la valorisation et des initiatives sociales d'AG2R La Mondiale et professeur de tai chi. Voilà, lui aussi, il fait des activités qui font du bien, y compris quand on a la maladie d'Alzheimer. Et Cindy Barotte, vous êtes fondatrice et directrice de l'association Arts, Art culturel Alzheimer. On va parler de musée. Vous pratiquez, vous, le tai chi. Et puis, il y a des activités qui mettent les neurones en action et la curiosité en action. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Et d'abord, Eric Sanchez, pourquoi avoir soutenu ce projet? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet?
Bonjour à tout le monde. En fait, on fait depuis plusieurs années un certain nombre de pratiques, hein, vous le savez, dites préventives pour la maladie d'Alzheimer et pour les aidants.
Est-ce qu'on vous entend bien dans le fond? Vous entendez tous bien?
Non.
Oui?
C'est parce que je suis petit.
Levez la main si tout le monde entend bien,
c'est
là,
parce
oui?
Parce que je suis trop petit.
C'est bon. Non, ça va, c'est moi qui ne suis pas sûre.
Et non, en fait, on a mis en place un certain nombre d'activités comme ça, d'interactions sociales, culturelles et de liens sociaux, notamment sur les découvertes artistiques et autres. Et puis, ce qui nous intéressait avec Cindy, c'est de voir comment, y compris en période de Covid, on pouvait transformer un peu ces activités pour les transformer dans quelque chose qui est de la présence vers de la distance présente. Voilà. Et pour faire le lien avec la scientifique qui est intervenue juste avant, alors nous, on a lancé un programme de prévention depuis maintenant quelques mois avec un bras nutrition, un bras activité physique adaptée et un bras hypnose et méditation de pleine conscience pour distribuer ça sur 350 personnes avec des interactions intéressantes et sur des aspects vérifiés sur les effets cumulatifs et alternatifs entre les différentes pratiques. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé, par contre, comme là, Cindy va vous en parler, on a transformé, ben, du fait qu'on ne peut pas être en présence, on a transformé ces activités en distanciel. Et on se rend compte, et les analyses sont en cours d'exploitation, qu'il y a des effets extrêmement intéressants à partir du moment où il y a un accompagnement dès le départ. Et il y a ce que j'appelle, moi, d'ailleurs, dans les thérapies aujourd'hui cognitivo-comportementales, ça s'appelle la théorie de l'engagement. Il faut que la personne s'engage, il faut qu'il y ait une participation de la personne. Donc tout à l'heure, vous proposiez cette notion de palette de solutions.
Oui, ça c'est très important d'avoir envie. On va parler là, juste pour résumer, de visites de musées en ligne, interactives, basées sur une pédagogie originale qui existe depuis 2007, c'est ça? Et soutenue depuis 2019 à Paris-Île-de-France, Pontarlier, Marseille, Montpellier et Saint-Martin dans les Antilles. Est-ce que j'ai tout bien noté?
Absolument.
Très bien, c'est à vous.
Je vous remercie. D'abord, je suis ravie d'être là pour vous présenter une problématique. Je suis Cindy Barotte, je dirige et j'ai fondé cette association qui s'appelle ARTS, sociologue de formation. Une sociologue, ça se méfie. Quand on parle, par exemple, du bien vieillir, il ne faudrait pas peut-être basculer dans quelque chose qui serait trop normatif ou, comme on l'a dit juste avant, facteur de stress ou d'anxiété. Moi, je me promène au parc de Sceaux quelquefois et je vois des groupes de jeunes retraités avec des bâtons marcher de façon très, très énergique. Je trouve ça formidable quand on est motivé, mais je me demande s'il y a des punis de l'activité physique. Et si, quelque part, il n'y a pas une injonction toujours à faire plus attention à comment à bien manger, à bien sortir, à faire attention, comme si on était finalement possiblement culpabilisé. Parce que ce qu'on se dit et ce qu'on sait, et les personnes qui sont âgées nous l'enseignent tous les jours, c'est qu'elles ne s'attendent pas à bien vieillir. Elles savent que quand on vieillit, on a des pertes successives de capacités. Mais que ce qui convient véritablement et le plus, c'est préserver une qualité de vie aussi longtemps que possible. En gros, moi, si je vieillis, ce que je ne veux pas, c'est perdre ma dignité. C'est qu'on soit obligé de me laver, de me faire manger. Et ce que j'ai envie véritablement, si jamais je suis atteinte de perte, c'est de faire en sorte de me maintenir le plus longtemps possible dans une vie qui a encore du sens et encore de la valeur. Je crois que c'est ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est de freiner cette entrée en dépendance, de faire en sorte qu'on ait une qualité de vie précieuse et maintenue le plus longtemps possible. Avec des chiffres que je ne vous apprends pas, mais je sais depuis toujours, moi, que la maladie d'Alzheimer, c'est comme un épouvantable terrible d'un point de vue social, et donc c'est une maladie possiblement effrayante. Et ce qui convient de faire, c'est aussi de se dire que la maladie d'Alzheimer, c'est très long, qu'être atteint, ça constitue quand même un futur, il y a longtemps à vivre avec. Et puis, c'est de se dire qu'on peut essayer de vivre avec une vie digne. et le plus longtemps possible. Moi, je me réjouis de cette perspective d'arriver à trouver un traitement. J'espère que Biogen va réussir. J'espère aussi parce que je pense que c'est intéressant que nos actions du secteur public soient associées aux enjeux stratégiques du secteur privé. Ce dont je suis certaine, c'est que si ça marche avec Biogen, alors très vite, toute la prise en charge va se structurer davantage. Ce qui est certain, c'est qu'on n'intervient pas tout seul. L'activité que l'on mène, c'est d'un point de vue culturel. Ça s'associe à un traitement, ça s'associe à d'autres initiatives. Et c'est vraiment en fonction de ce qui nous fait plaisir et de ce qu'on aime faire. Mais forcément, le traitement de cette pathologie sera global. On peut avoir un médicament, mais il faudra absolument un support social. Pour que nous, on arrive à sortir dans le domaine des activités culturelles du registre des bonnes œuvres à quelque chose qui devient absolument stratégique, alors il est certain qu'il faut qu'il puisse y avoir de l'évaluation. Et il se produit quelque chose de vraiment formidable, c'est qu'on commence à avoir des chiffres. On l'a vu juste avant, et puis il y a aussi cette revue de la littérature de l'OMS. Avec cette fois-ci quand même, pour la première fois, moi ça fait 15 ans que je fais de la maladie d'Alzheimer, l'espoir de voir qu'il y a une contribution au retard du déclin cognitif. De voir aussi qu'il y a certaines sociétés qui en font un enjeu majeur. On parle du social on prescription ou de l'art on prescription parce que le médecin généraliste maintenant est au fait, notamment en Grande-Bretagne, qu'il est essentiel de faire en sorte que la personne ne soit pas seule, ne soit pas isolée. Et des répercussions de ce type d'initiative que nous menons sur des données objectives, des données de santé. Aujourd'hui, il semble que véritablement tout ce qui est du domaine des sciences humaines a davantage de valeur, en tout cas est considéré comme tel. Et ça, c'est absolument essentiel depuis si longtemps que l'on essaye de développer des activités. Notre vocation à nous, à travers la longue expérience que nous avons depuis plus de 10 ans, c'est d'accompagner des personnes qui ont des troubles de la mémoire. Et dans le cadre de la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir le public de nos bénéficiaires et dorénavant s'adresser aussi aux seniors quand on commence à ressentir le besoin, l'envie de stimuler sa mémoire. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre association, elle est implantée en Île-de-France, on a une vingtaine de plateformes de répit et d'accompagnement partenaires, mais quand on nous adresse des gens, c'est toujours bien tard. C'est bien tard parce que déjà, l'autonomie est atteinte, mais l'autonomie est atteinte dans ses répercussions sur la vie quotidienne. Et quand il y a une vraiment répercussion sur la vie quotidienne, bah, c'est qu'on est vraiment tard dans le processus. Et il faudrait arriver à remonter en amont. Donc là, c'est l'action de l'association de prévention, d'accompagnement, avec une mobilisation importante. La manière qu'on a, nous, de travailler, c'est en mobilisant des volontaires du service civique que l'on forme, que l'on suit, mais aussi en mobilisant des bénévoles issus de l'entreprise, des salariés avant le départ en retraite, parce qu'il y a des entreprises qui ont pour cœur de métier ce que nous faisons et nos intérêts sont convergents. Donc, c'est tout l'intérêt qu'il peut y avoir à directement s'impliquer dans l'accompagnement de nos aînés. Ce que l'on recherche aussi, c'est de pouvoir trouver des liens entre nos objectifs à nous du secteur public vers le secteur privé. L'impact de notre action, aujourd'hui, nous avons plus de 1250 bénéficiaires. On est particulièrement reconnaissant chez ARTS de l'accompagnement d'AG2R La Mondiale parce que, à travers les financements publics, on était arrivé à un plafond de verre. Ce qui était essentiel, c'est de trouver des gens qui croient suffisamment en nous pour le franchir et essayer de décupler le volume de bénéficiaires accompagnés. On est en train de le décupler. Ce qu'on espère, c'est à travers la pérennisation de ce soutien, passer à 2000 puis à 3000 personnes accompagnées. Pour rendre les choses un peu plus claires, je voulais juste vous montrer ça. C'est qu'en fait, là, on a schématiquement tous les stades de la maladie d'Alzheimer, entre le moment où on n'a aucun symptôme à l'atteinte sévère. Et en fait, juste pour vous dire que la problématique à laquelle on est confronté, vous voyez, ART, c'est le rond là, avec les flèches. En fait, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on identifie les personnes trop tard. Et quand on les accompagne, C'est un peu dommage parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus de choses et on aurait pu véritablement avoir un rôle de stimulation cognitive plus importante et plus précieuse pour elle. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de remonter dans le temps, d'essayer de se situer à un moment où il y a perte d'autonomie domestique et sociale. Vous savez, ce sont les variables illustratives de la grille AGIR. Donc pour ça, il faudrait vraiment arriver à diagnostiquer en amont, et on sait à quel point le fait de trouver enfin un traitement pourrait nous aider à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas très envie d'avoir une maladie d'Alzheimer diagnostiquée. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse nous donner de l'espoir. Et le traitement fait partie de cet espoir. Et on pourrait ainsi remonter en amont et arriver à identifier des personnes plus tôt, les accompagner plus longtemps et véritablement apporter pleinement le bénéfice escompté. On le fait en ce moment en se rapprochant d'un ensemble de mairies et en travaillant main dans la main avec les centres de prévention Bien Vieillir à Gircarco. Après, il y a les plateformes et tout l'intérêt pour nous est d'être au début sur de la prévention. Le musée, l'activité que l'on propose est non stigmatisante. On n'est pas encore dans le secteur médical et médico-social. On accompagne à ce moment-là et ensuite, quand on arrive à objectiver une perte de l'autonomie, on puisse ensuite faire en sorte que les personnes rentrent dans un parcours de soins. En tout cas, c'est l'objectif aujourd'hui. Donc, un parcours de prévention pour enrichir le lien social, favoriser la mobilité, l'accès au numérique. On s'est rendu compte pendant la crise sanitaire que l'accès au numérique, ce n'était pas seulement avoir un ordinateur, c'était aussi pouvoir bien s'en servir. La manière que l'on a eue, originale, d'essayer de faire en sorte que les personnes puissent encore avoir accès à une activité culturelle, ça a été de pouvoir faire en sorte qu'un volontaire en service civique puisse se rendre chez elles, les aider à se connecter. Ils sont venus avec un ordinateur au domicile des personnes. Et ils se sont connectés ensemble via Zoom. Et c'est comme ça qu'on a pu essayer de maintenir de l'activité sociale. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au début, au premier confinement, aucun d'entre nous, du secteur médico-social, on avait la main sur les bénéficiaires. En mars, au début. En septembre, quand on a récupéré les personnes, elles avaient souvent fait une plongée dans la maladie. On n'a pas de données vraiment là-dessus, mais c'est complètement sidérant. Nous, les personnes qu'on accompagnait, on les récupérait à un GIR avancé. Et donc, on voit comment, pas tout seul, mais comment tous ensemble, comment le secteur médico-social tenait des familles debout. Donc, à cette prévention, il y a ensuite un accompagnement qui se met en place et qui est en lien avec tout un tas d'acteurs locaux. C'est essentiel de pouvoir faire les deux, pouvoir faire en sorte que ce soit coordonné, puisqu'en fait, le parcours de soins demeure peu lisible pour les personnes qui en bénéficient. Avec des formats d'action, alors aujourd'hui on peut tout faire, des formats d'action qui consistent à aller au musée, à stimuler les personnes au musée, ou alors à les accompagner à travers une application que l'on a développée et qui permet de découvrir les œuvres. Dans ces évaluations qui sont faites des activités culturelles, souvent ce qui manque, c'est qu'est-ce qu'on compare, qu'est-ce que concrètement vous faites. Et on ne voit pas très bien, on ne sait pas très bien comment ces activités culturelles peuvent être adaptées aux personnes, mais je peux essayer de vous le montrer à travers la nuit étoilée de Van Gogh. Quand vous êtes face à cette œuvre, la nuit étoilée de Van Gogh, c'est important de vous rendre compte en fait qu'une personne qui peut avoir des troubles cognitifs peut vraiment parvenir à comprendre cette œuvre. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que moi je vous la raconte. Et donc, en fait, ça commence toujours par la question « qu'est-ce que vous voyez ?» Qu'est-ce que vous voyez est une question qui permet de repérer quelques fausses reconnaissances et donc corriger ce qu'on voit. Mais c'est aussi, en termes de prévention, pour le public de seniors, une manière de travailler son vocabulaire, une façon appropriée par rapport à ce qu'il a devant les yeux. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est faire en sorte de créer de l'interaction. Donc, vous voyez, il y a un menu sur le côté avec des icônes explicites. On arrive à montrer qu'est-ce qu'on déclenche comme effet. On peut déclencher de la vidéo, on peut déclencher un détourage. Le détourage, c'est ce qui permet d'opacifier un morceau du tableau et puis de mettre de la lumière sur les autres. C'est complètement sidérant. Il y a dans la maladie une difficulté à focaliser sur un élément en particulier, mais je peux vous redonner un peu de focalisation en détourant certains éléments. Ça marche aussi chez moi. Il y a des œuvres que l'on comprend bien quand on les détourne. Nous sommes aussi, il y a une opportunité de pouvoir apporter du son et aussi de l'image pour rendre ça très dynamique. Ce qu'on essaye de faire, c'est de poser des questions qui sont sans mode d'échec et d'aller très loin dans la compréhension de ce qu'est une œuvre. Par exemple, si je vous dis que Van Gogh crée de l'harmonie dans sa peinture et que je vous demande à quoi vous le voyez. L'harmonie dans la peinture, c'est le choix des couleurs. C'est le fait que le bleu cobalt se retrouve du haut vers le bas. C'est la manière de représenter les lumières vibrantes. Van Gogh, il voulait être pasteur. Il croyait vraiment beaucoup à l'unité, à l'harmonie. Donc, une interpellation sur l'harmonie et chacun va en chercher des éléments différents. Le sens du tableau, c'est aussi opposer deux types de nuit. La nuit paisible. La nuit paisible, on la voit au premier plan. On la reconnaît à quoi ? Et ça, c'est une question que l'on pose directement. On la reconnaît à cette berge. On la reconnaît aux deux personnages et à une sorte de promenade d'amoureux. Ils sont séparés par l'eau. Et de l'autre côté, il y a la ville d'Arles, animée par les becs de gaz. Et ce que Van Gogh a essayé de montrer, c'est deux nuits. Une nuit apaisante et puis une nuit animée, agitée, de la vie noctambule. Et ça donne lieu à une animation. Vous savez, en ce moment, on anime beaucoup les œuvres d'art. On voit la Joconde chanter, bouger, on voit même Marat bouger dans sa baignoire. C'est un peu... Ce qui est embêtant là-dedans, c'est que ça vous casse l'imaginaire. Et donc l'idée, c'est de garder l'intégrité de l'œuvre et d'essayer de la rendre véritablement immersive. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Si on peut déclencher la vidéo. Donc voilà l'application. On se connecte. On a un choix par thème, musée, artiste. C'est compréhensible par tout un chacun. Un texte, mode sans échec, un commentaire, un détourage. Et une œuvre qu'on arrive à entendre. L'intérêt de faire ça, c'est de soutenir la compréhension cognitive et d'avoir une immersion dans l'image et une compréhension à travers le son des différents plans qui la constituent. On a décliné ça également dans des livrets qui permettent de compenser la fracture numérique. Et puis... Il y a ces volontaires en service civique extrêmement précieux pour nous, pour l'association que l'on forme, que l'on encadre de façon rigoureuse et qui contribuent à changer le regard sur la maladie. Je voudrais juste vous montrer.
Les volontaires, ils vont chez les personnes.
Oui, ils vont les chercher.
J'ai des amis qui ont fait donc plusieurs missions. Enfin, j'ai plusieurs amis qui ont fait des missions. Et en fait, moi, ça fait très longtemps que je suis dans le monde universitaire. J'ai plusieurs années d'études et j'avais envie d'une vraie expérience, donc je me suis dit bon, autant faire une mission qui a de l'utilité, et c'est comme ça que j'en suis arrivée là, disons.
Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Marie Adélie.
Ok. Comment tu te sens ?
Je me sens bien.
Bonjour à tous, Marie Adélie, juste pour me confirmer que tu m'entends bien, n'hésite pas à me faire un petit pouce. Ok, super. C'est parfait.
Je me destine au monde de la culture, en fait. Je pense que j'avais besoin de savoir que la culture, ça change des vies et que c'est pas juste connaître des faits, avoir des connaissances. Et j'avais besoin de voir qu'il y a un lien entre l'art, l'histoire et les êtres humains. Et je me suis dit que art, ce serait parfait, parce que pour le coup, c'est la culture au service d'un public spécifique.
Voilà, les deux bosses du chameau. Vous voyez, il y en a une ici.
Où ça ?
Et une
là.
Ici. Donc en fait, le personnage, il est assis entre les bosses du chameau.
Ah,
c'est
d'accord.
Vrai qu'avec les objets autour, on ne les voit pas forcément, on ne les remarque pas forcément, ces deux bosses. Et elles sont, voilà.
C'est ça. S'il y a bien un truc que je retiens, c'est que nos bénéficiaires, c'est des personnes qui sont avides de rencontres. de discussion. Et même s'il n'y avait pas la visio, même s'il n'y avait pas les tableaux, ils sont ravis de nous recevoir chez eux, ils sont ravis d'avoir quelqu'un avec qui discuter, en fait. Et donc, rien que ça, si on se dit qu'on va chez quelqu'un, et le simple fait d'être chez la personne et de discuter avec elle, ça l'aide, en fait. Du coup, vraiment, il faut y aller sans stress et sans inquiétude pour ça. Et le moment va bien se passer et la personne va énormément apprécier la visite, même si elle n'aime pas forcément les tableaux qu'on voit, etc. Juste ce contact, en fait, il est essentiel. Et c'est ça qui fait que bah, ça se passe bien des deux côtés, même du côté des volontaires et du côté des bénéficiaires.
J'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà.
C'est intéressant.
Oh oui, c'est intéressant. Et ça fait travailler un peu là. On essaie de comprendre et on regarde à quoi ça correspond.
Travailler
et pourquoi est-ce que c'est conçu d'un côté et pas de l'autre. Mais il y a un tas de choses qui vous arrivent comme ça dans la tête, tout naturellement, parce que vous regardez.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
Si on s'entraide dans les uns les autres, qu'on avance. Et je disais que je m'adressais aux jeunes, mais ça peut aller pour tout le monde, en fait. Stressez pas pour demain, parce que on est tous dans le même bateau, comme on dit. Bon, voilà.
Oui, c'est moi.
C'est joli, comme
ça. Non, merci.
Ah oui. Ils ont du goût, vos parents.
Je leur dirai.
Un accompagnant par personne, c'est ça? Et des petits groupes, sinon, vous intervenez par petits groupes?
En fait, oui, nous intervenons par petits groupes. Et en fait, on a les volontaires qui se rendent dans plein domicile et on connecte comme ça 6 à 7 foyers avec une personne au sein de l'association qui anime la séance, qui est un guide formé par l'association. Et on développe plusieurs modèles et façons d'intervenir. On a hâte de revenir au musée, mais cette expérience et le développement de l'application va permettre de toucher des personnes qui ont des difficultés à bouger, qui sont éloignées des sites culturels et qui, culturellement, se demandent qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller au musée voir des œuvres d'art.
C'est possible aussi d'aller au musée en restant chez soi. Hein. C'est vraiment ce que vous avez démontré là. On sent la sociologue de formation que vous êtes qui pétille. Et c'est assez formidable que cette initiative. J'avoue que tout à fait impressionnant. Quelle est la place de l'aidant dans cette opération ?
En fait, l'aidant, son premier besoin, c'est de souffler, c'est d'avoir du temps pour lui. Et ça, c'est une évidence pour nous. Mais pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'il ne savait pas suffisamment ce qu'on faisait. Et puisqu'il n'est pas là dans les visites de musées que nous organisons. Donc on prend le temps aujourd'hui et désormais de les faire assister à une séance ou deux, de manière à leur donner à voir aussi de façon surprenante ce que leur proche est encore et toujours capable de faire. Ils ont une perception quand même aussi très axée sur le déclin. Le volontaire, lui, il arrive et il prend la personne exactement comme elle est, et donc il révèle quelques possibilités qui ne sont pas forcément vues.
L'ambiance est assez extraordinaire. C'était la séquence zen, on a eu la méditation, et puis une seconde séquence zen, là, avec votre immersion au musée. C'est tout à fait édifiant, vraiment. Merci beaucoup et bravo d'avoir soutenu cette initiative, à vous, Eric Sanchez. Oui, vraiment, on sent que l'ambiance est vraiment déterminante, hein, dans laquelle ça se fait, c'est chaleureux, c'est détendu.
Ah, en fait, ce qui est absolument essentiel dans toute stimulation cognitive, c'est le plaisir et l'envie. Quand on n'a pas envie de le faire, ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'on disait juste avant. Donc, cette proposition, elle correspond. Elle correspond à son public. Et puis, pour d'autres, il y aura d'autres initiatives. Mais ce qui est absolument déterminant, c'est l'activité sociale. Et puis, c'est ce moment, en fait, où les fonctions exécutives commencent à être atteintes. Donc, déficit de planification, d'organisation. Je suis en retrait, en repli social. Et c'est ce repli social qui va favoriser le déclin. Donc c'est contre ça qu'on milite, que ce soit à travers l'art, la méditation, le tai chi, tout un tas de propositions possibles.
Alors c'est très demandeur humainement, hein, en accompagnant, donc d'où cette question, est-ce que je peux être l'accompagnatrice arts pour mon parent et comment ça fonctionne au niveau de la connexion? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est payant?
Donc aujourd'hui, on bénéficie de l'accompagnement d'AG2R, la mondiale. Donc on peut offrir la gratuité aux familles. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, c'est lorsque l'on est aidant, on peut le faire avec son proche. Ce qu'il va juste falloir pour nous faire, c'est faire une séance ensemble de préparation avec l'ensemble des aidants familiaux pour dire voilà c'est quoi notre méthodologie, voilà les questions que l'on va poser à votre proche. Il faut surtout lui laisser toute la place puisque c'est avant tout fait pour un fonctionnement cognitif, certes ralenti, mais toujours là.
Et est-ce qu'on peut intervenir en EHPAD ?
On peut intervenir en EHPAD, on le fait en ce moment, dans l'EHPAD Reuilhin à Marseille, avec le soutien d'Éric Sanchez. Et on voit ce qui se passe, c'est-à-dire on connecte tout un groupe de résidents à l'activité qui est animée depuis Paris et ça marche du tonnerre. Ce qu'on a vraiment envie, c'est de pouvoir passer la compétence parce que l'application existe et doit pouvoir permettre à chacun de pouvoir s'en saisir.
Aller au musée en solo, c'est aussi des choses que vous recommandez au-delà de cette animation où il y a vraiment besoin, là on le voit, de ces zooms que vous mettez sur certaines parties du tableau, de tout ce contexte avec lequel vous accompagnez la découverte de ce tableau.
Une fois, j'avais croisé un professeur à Lausanne qui me parlait de l'effet Fragonard. Je lui disais, mais c'est quoi l'effet Fragonard ? Il me disait qu'en fait, le tableau tout seul, c'était déjà énorme. Je ne suis pas sûre de ça. Et le musée n'est pas forcément un bon lieu non plus. Vous allez au Louvre, c'est un modèle de lieu dans lequel on ne se retrouve pas. Toutes les salles se ressemblent. Et puis s'il y a tellement de monde, alors du coup, ça devient plutôt un test ou une expérimentation de ce qui peut être facteur de troubles cognitifs et psychocomportementaux. Non, ça nécessite d'être préparé. Et puis, ça nécessite de suivre une certaine structure. Et vous connaissez cette expérience du musée avec une conférencière où on se balance comme ça d'un pied à l'autre parce qu'on s'ennuie un petit peu. Aujourd'hui, l'histoire de l'art n'est pas enseignée pareil. On apprend à faire en sorte que le public fasse partie de tout ce qui se passe pendant la visite. Ça nécessite une formation, mais c'est tout à fait accessible.
Vous allez reprendre, dès que ce sera possible, les visites dans les musées ?
On attend qu'ils fassent leur tour de chauffe parce qu'on tient beaucoup à nos conditions de visite, à nos clients et au fait de pouvoir faire en sorte que ce soit bien organisé et qu'on puisse être serrés les uns près des autres pour pouvoir se raconter des choses à l'oreille. Les conditions n'y sont pas encore.
Cindy Barotte, Éric Sanchez, un grand merci d'être venu nous présenter cette initiative tout à fait inédite. Je n'en avais jamais entendu parler avant de préparer ces entretiens et je suis absolument conquise. Vraiment, merci beaucoup.